FM 93.1.
Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Fréquence Droit, l'émission de la section des 10 et 11e arrondissement de la Ligue des Droits de l'Homme. Aujourd'hui, émission spéciale d'une série de 3. Les élections municipales de 2026 seront le dernier rendez-vous électoral avant la présidentielle. Elles permettront de mesurer le poids des partis politiques, celui de l'abstention également, mais aussi l'émergence, quand elles existent, de listes citoyennes. Sans attendre ces échéances, Fréquence Droit a voulu donner la parole aux mouvements et aux collectifs citoyens qui ont décidé d'être les acteurs de leur avenir. Question centrale, comment associer les citoyens et citoyennes à l'invention d'une démocratie plus directe, délibérative et décisionnelle? Vaste programme donc. Pour en parler ce soir, avec moi Boudjima Daman de la Ligue des Droits de l'Homme qui va co-animer cette émission. Sylvie Alfandéry, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de l'association Les Cahiers pour décider et agir. On verra ce que vous faites sur le terrain. Sophie Maisondieu, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie du collectif Doléances à Paris qui réunit, vous me confirmez, les efforts des 11e, 20e et Paris Centre.
Exactement.
Merci Sylvie et Sophie d'être avec nous aujourd'hui. Je précise que vous faites partie de la Ligue des Droits de l'Homme, section 10-11.
Vous écoutez à Ligue FM 93.1.
Moi, je viens de Haute-Savoie. Je voulais monter à Paris, mais je peux pas à cause de mon travail. Et je suis là parce que je considère ce gouvernement complètement illégitime, non représentatif du peuple. Et je suis là pour qu'il parte.
Parole de Gilets jaunes enregistrée à Paris, c'était en 2018. Pour beaucoup d'observateurs, ce mouvement a été perçu comme désorganisé, parfois traversé par des dérives idéologiques. Mais pour vous, au contraire, il a constitué un point de départ démocratique. Vous me le confirmez, Sylvie Alfandéry?
Oui, c'était pas la première fois que ça existait dans l'histoire de France, puisque ça existe depuis le XIIe siècle, les cahiers de doléances. Et c'est impressionnant de voir que chaque fois que la société va mal, les cahiers de doléances existent et transforment les choses.
Sophie Maisondieu.
Ce que je peux dire simplement des Gilets jaunes, parce que là on entend une manifestation, c'est que ça a été un énorme débat démocratique, c'est-à-dire qu'ils sont sortis avec leurs Gilets jaunes pour être visibles, et puis ils ont débattu sur les ronds-points, ils ont fait des assemblées, on a entendu parler de la fameuse assemblée de Commercy, et ils ont écrit des cahiers. Il y a, paraît-il, 4 millions des cahiers, rien que les Gilets jaunes, puisqu'il y a, après on en parlera peut-être aussi, les cahiers citoyens ouverts dans les mairies, et les cahiers du rendez-vous. Donc ça fait quand même beaucoup. Peut-être une autre chose à dire, c'est la contestation quand même du pouvoir qui a eu une réponse complètement sécuritaire de répression du mouvement et puis qui n'a pas répondu ou de manière extrêmement faible aux doléances, aux revendications sur le RIC, la taxe...
Référendum d'initiative citoyenne,
la taxation de l'essence, etc. Voilà.
Sylvie Alfandéry.
Oui, je voudrais rajouter quelque chose qu'on oublie souvent. C'est que Macron, effectivement, à la suite des initiatives de l'Association des maires de France d'ouvrir les mairies, a organisé le grand débat. Mais les Gilets jaunes ont répondu par le vrai débat. Et ils ont travaillé avec des chercheurs pour effectivement analyser les revendications qui étaient portées par les Gilets jaunes. Et ça, on l'oublie souvent.
Mais alors justement, à partir de ce constat, qu'avez-vous décidé de faire l'une et l'autre? Alors peut-être Sophie d'abord.
On est en 2000, donc les Gilets jaunes c'est 2019 et 2024, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a eu le déni du vote des Français puisque ce n'est pas un gouvernement Nouveau Front Populaire qui est nommé par le gouvernement. Et nous, on est quelques militants de la Ligue des Droits de l'Homme, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la montée de l'extrême droite et cette crise démocratique. Et à ce moment-là, on entend parler d'un film qui s'appelle « Les doléances » par une documentariste Hélène Desplanques et qui reprend justement les témoignages des citoyens qui ont laissé leur contribution dans les cahiers dans les mairies rurales, là, fin 2018, ce qui a effectivement suscité la décision de Macron de lancer le grand débat en 2019. Et on se dit, mais ça, c'est un ressort quand même citoyen d'aller récupérer la parole des citoyens, de lui donner de la valeur, de la rendre visible, en fait.
Et d'ailleurs, dans ce film, je crois qu'il suivait le parcours d'un maire d'une petite commune de l'Oise, donc d'Allongeville, voilà, qui s'était donné comme objectif celui, effectivement, de sortir les cahiers de doléances et de les rendre publics. Sylvie, à partir de ce constat également, je crois que vous avez décidé d'aller vous-même dans le plus loin, en quelque sorte, et d'essayer d'organiser des assemblées de codécision, en quelque sorte.
Oui, nous on crée l'association Les Cahiers pour décider et agir, parce que notre objectif, c'est surtout de mettre en œuvre ce qui est écrit dans les cahiers. Je salue le travail des nombreux collectifs, parmi lesquels le collectif du 11e, qui se sont rendus dans leurs archives départementales et qui ont analysé tous les cahiers. Mais pour être franche, l'ensemble des opérations d'écriture de cahiers demandent tous les mêmes choses. Ce qui est très chouette, c'est qu'ils le disent tous avec des mots différents. Et effectivement, quand on lit la façon dont les rédacteurs de cahiers ont pris la parole, on est très ému. Et ça, c'est formidable que tous les collectifs cahiers de tout l'ensemble de la France aient fait ce travail. Les revendications, elles sont, on peut les classer en 4 ou 5 importantes. Lutter contre l'injustice fiscale, l'injustice sociale, faire que des services publics marchent, que l'accès à la santé, l'accès à l'éducation soit facilité, contre le privilège des élus, avec quelque chose de très ambigu, c'est-à-dire qu'à la fois les rédacteurs se sont très émus qu'on leur donne la parole, et ça c'est ce qu'on voit dans les cahiers, et à la fois ils ont une méfiance énorme envers les politiques, sauf les maires qui trouvent grâce à leurs yeux. Et donc nous on se dit, il faut qu'on mette en œuvre ce qu'il y a écrit dans les cahiers pour essayer de transformer ce que les gens attendent qu'on transforme. Et donc effectivement, on organise des assemblées de codécision. Et on commence par en organiser une, mais ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard.
On va peut-être en parler, parce que sur la genèse de tout cela, c'est très important. C'est donc cette assemblée de codécision qui a lieu à l'île
Saint-Denis.
À l'île Saint-Denis. Comment ça démarre ?
Bah, ça démarre de la façon suivante. Il se trouve que dans notre association se trouve quelqu'un qui a une longue habitude d'organisation des assemblées et qui connaît les élus de l'île Saint-Denis. Or, les élus de l'île Saint-Denis, ils ont un projet de contrat avec l'Agence régionale de santé pour travailler sur les questions de santé, parce que les problèmes de santé sont catastrophiques en banlieue et particulièrement dans le 9-3, comme ils le sont à la campagne et partout. Et on retrouve d'ailleurs dans les cahiers beaucoup de choses là-dessus, avec effectivement une solidarité en plus entre les terrains ruraux et les terrains de banlieue. C'est-à-dire la banlieue dit on est solidaire des ruraux et de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est ça qui est formidable dans les cahiers, c'est qu'il n'y a rien de localisme. C'est-à-dire qu'à la fois on parle du territoire, mais c'est aussi en liaison avec le global et le reste. Et donc effectivement on rencontre les élus de la ville de Saint-Denis et on organise une assemblée de codécision. Les assemblées de codécision partent du principe suivant. C'est qu'on consulte souvent les citoyens, mais que c'est jamais eux qui décident. C'est-à-dire qu'on recueille leur avis, mais après le maire passe et dit, ben voilà, je vais faire ça et je vais faire ça. Et il n'y a pas de codécision, c'est-à-dire de décision à part égale entre les élus et l'assemblée de codécision. Donc nous, ce qu'on propose, c'est effectivement de faire que les élus et des personnes tirées au sort co-décide autour d'un thème qui est choisi en commun, qui est tiré des cahiers, et qu'effectivement, cette co-décision soit présentée en conseil municipal sans être changée.
Bougez, madame Anne.
Oui, c'était pour justement poser la question aussi à Sophie, puisque Sophie, vous avez fait des tableaux pour récapituler effectivement ce qui ressortait en termes de revendications, et vous avez organisé une réunion avec des citoyens et des partis politiques à la fin du mois de février, qui a été d'ailleurs un succès incontestable, puisque tous les représentants de partis étaient présents, de LR jusqu'à LFI, en passant par Place Publique, à LPS évidemment. Alors, quel est votre bilan à vous, au regard de ce que vient de dire Sylvie ?
Peut-être déjà, enfin je ne sais pas si c'est le moment, mais dire que ces cahiers de doléances quand on est allé chercher en mairie, c'est une vraie mine d'or. C'est-à-dire qu'on a une espèce de socle transpartisan des Français, des Françaises, en l'occurrence des Parisiens, sur ce qu'ils veulent. Avant de revenir sur effectivement le travail qu'on fait de diffusion et de mise en débat de connaissances hein, de ces cahiers, peut-être dire ce qui ressort à Paris, hein, qui est quand même une capitale importante. Et comme disait Sylvie, on peut retrouver des thèmes tout à fait en France, hein, à Forbach, dans les Gironde ou en Bretagne. Alors moi, je veux dire juste, dans ce qu'on a analysé, on a essayé de mettre des proportions. Hein, par exemple, il y a les trois principales priorités qui ressortent dans le 11e, c'est la fiscalité et les dépenses publiques, c'est-à-dire l'injustice fiscale, la démocratie en deuxième position et le pouvoir d'achat, les inégalités de revenus en troisième position. Voilà. Et dans le 20e, on va dire que la partie sur les injustices fiscales est plus forte et sur le pouvoir d'achat vient tout de suite après l'injustice fiscale et après il y a la démocratie. Et puis après on retrouve la demande de services public, la transition écologique. Et quand même, il y a un constat majeur et que font les Parisiens, en tout cas, qu'ont déposé ces contradictions, c'est que en fait, il faut faire la grande réforme fiscale, c'est-à-dire qu'on n'y comprend rien aux impôts, c'est pas lisible, ce n'est surtout pas progressif. Et il y a des tas de propositions, une floraison de propositions sur remettre l'impôt sur la solidarité, sur la fortune, baisser la taxe des produits nécessités, ça c'est par rapport au pouvoir d'achat, taxer les dividendes, quand on voit la flambée des dividendes des entreprises du CAC 40, déjà en 2019, c'est important et ça l'est toujours en 2026. Voilà. Et puis, sur le pouvoir d'achat, ce qui nous a frappé quand même, c'est que ce sont surtout les gens qui parlent de leurs conditions de vie précaires, qui ont des petites retraites, des petites pensions, qui ont le SMIC. Donc, il y a aussi des revendications sur revaloriser tout ça par rapport à l'inflation, sur aussi réduire l'échelle des salaires hein, de 1 à 20, c'est par une proposition, puisqu'il est de 1 à 200 à l'heure actuelle en France. Voilà.
Et ces revendications parisiennes oui. sont au diapason de celles qu'on peut... enregistré ailleurs, à Forbach, à Bordeaux, à Marseille.
Alors, quand je suis allée voir mes petits camarades du collectif de la Bretagne cet été, ils avaient une table, ils faisaient une exposition avec tous les cahiers des doléances centaines de communes qu'il y avait dans leur coin. Et en fait, il y en avait beaucoup sur le service public. En fait, beaucoup plus qu'à Paris, parce que nous, c'était à peu près 7%, mais plus dans le 20e, hein, 15% des aspirations et des propositions. Alors voilà, donc c'est la santé, mais la santé, on a aussi parlé de la santé dans Paris, voilà, surtout dans le 20e arrondissement, mais aussi dans le 11e. Voilà, donc les services publics, mais aussi la démocratie. Hein,
mais justement, voilà. Je reviens à la réunion publique qui a été organisée par les comités de doléances. Voilà. Tous les partis étaient présents, ouais. Je l'ai dit. Hein, est-ce que vous avez l'impression, non seulement d'avoir été entendu, mais d'avoir été écouté, mais surtout d'avoir été entendu et,
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, je sais pas, mais ce que j'ai rencontré hier soir un des participants de ce débat, qui était un militant politique, et il m'a dit une chose qui m'a fait très plaisir. Il m'a dit « c'est la meilleure réunion que j'ai eue pendant la campagne municipale ». Voilà. Donc moi, j'étais partie avec le sentiment qu'il y avait un espace de débat de gens qui, a priori, ont dit qu'ils ne vont pas s'entendre et d'une certaine manière que ce qui se disait et on lisait à voix haute les doléances parce que ça nous a touchés, parce que ça parle des conditions d'existence des gens, parce que ça propose. Et ce que nous disaient les militants politiques, c'est qu'ils avaient aussi été touchés par ça, qu'ils voulaient ces cahiers-là. Et moi, j'ai trouvé que de faire exister ce débat, c'est déjà un acte démocratique. Après, on verra si... moi, je compte bien aller les revoir après les élections pour leur dire « vous avez été touché, etc. » Bon, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'arrondissement pour que réparer ce lien, voilà, ce lien élu-habitant.
Retour à Lille-Saint-Denis pour parler codécision. Il y a un mot qui a été prononcé tout à l'heure... Vous avez prononcé, Sylvie, celui de tirage au sort, illustration avec cet extrait d'un film dont vous alliez nous parler tout à l'heure et que vous avez co-réalisé.
Je m'appelle Alain François, je suis élu ici à Saint-Denis.
Donc, vous avez été tiré au sort. En fait, l'immeuble, votre immeuble a été tiré au sort. Et vous allez vous retrouver, donc la trentaine de citoyens, vous allez vous retrouver avec 4 ou 5 élus. Et vous allez, pendant 2 jours et une soirée, réfléchir à une mesure à mettre en place à l'île Saint-Denis.
Je trouve qu'il est trop tôt.
Ok, donc mardi 24 juin, c'est mardi prochain.
Wow. C'est mardi prochain à 18h à la MIC.
Vous, comment vous avez réagi quand on a toqué à votre porte pour vous proposer cette idée un peu folle de participer à la codécision sur la santé ?
J'étais pas particulièrement motivée, mais en revanche, mon fils l'était pour moi. Mais bon, après, plus sérieusement, j'ai aussi accepté parce que c'était l'opportunité, et en plus mon fils était présent, de lui montrer une autre façon de justement de faire de la politique et où on serait une façon un peu moins, où on serait un peu moins spectateur et un peu moins consommateur de politique et un peu plus acteur et partie prenante. Voilà.
C'est plus le sujet qui m'a interpellée parce que comme je vis à l'île Saint-Denis depuis près de 8 ans, c'est vrai que trouver un médecin ou des endroits où je vais me faire soigner, c'est très délicat. Je vais plutôt dans la ville d'à côté ou sur Paris. Et donc, je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas. J'ai aussi des choses à dire.
Le film s'appelle « Les règles du jeu », Sylvie Alfandéry. Alors, c'est quoi ? C'est le récit d'une expérience à l'île Saint-Denis, mais encore.
Oui, c'est à la fois le récit de l'expérience de l'Assemblée de codécision de Saint-Denis et c'est aussi une présentation du processus d'organisation des assemblées de codécision.
Alors, dans le processus, il y a ce fameux tirage au sort, illustré par l'extrait qu'on vient d'entendre. Le tirage au sort, c'est de la démocratie ? Plus que l'élection ?
Le tirage au sort, c'est une partie de l'Assemblée de codécision. Une chose est sûre, on ne remet pas en cause le processus des élections. Il y a suffisamment de pays qui en souffrent de ne pas pouvoir voter pour qu'on mette en cause ce processus, ça c'est clair. Par contre, on pense qu'aujourd'hui, il y a un essoufflement démocratique et qu'effectivement, il faut inventer d'autres formes qui impliquent les gens et qui les réconcilient avec la politique. Parce que ce qu'on pense, c'est que si les gens sont découragés et se jettent dans les bras du Front National, il faut reconnaître, hein, 30 à 40%, et c'est ceux-là, on ne les a jamais essayés. C'est ce qu'on entend très souvent. Eh bien, on a envie de leur montrer qu'il y a d'autres façons de s'impliquer et de s'engager, et qu'effectivement, quand on voit la façon dont les gens ont réagi à l'organisation de ces assemblées de codécision, on se dit qu'on est dans le bon chemin. J'ai un peu envie de parler du tirage au sort, parce que moi, autant mes copains sont très très habitués à organiser des assemblées de ce type, autant moi, c'était la première fois que j'y participais. J'ai plus travaillé sur les cahiers. Et donc, on va voir les gens à 6h30 du soir. Moi, je me dis, mais attends, on va les déranger. Il y a les mômes qui piaillent, qui ont faim. Enfin bon, on a été vraiment très très bien reçus. Les gens étaient contents. Ils nous ouvraient leurs portes. On entrait chez eux. C'est tout juste s'ils ne nous offraient pas quelque chose à boire. Certains l'ont fait. Et les gens étaient vraiment intéressés par ce processus. Et ça m'a vraiment touchée, parce que je ne pensais pas que ça serait comme ça à ce point-là. Je pensais que ça serait moitié-moitié, qu'on se ferait jeter la moitié du temps, accepter la moitié. Il y a une personne sur 15 personnes, je crois, qui a dit « ça ne m'intéresse pas ». Et elle l'a dit poliment, en plus, elle ne nous a pas agressés.
Il y a un désir de prendre la parole, c'est ça ? De s'exprimer et de décider, c'est ça ?
C'est ça. Déjà, les cahiers de doléances et de propositions ont montré que les gens ont envie de prendre la parole. Alors, il y a une chose, je fais une incise, mais je trouve que c'est important. Il y a tout un débat aujourd'hui sur la question d'anonymisation des cahiers. Effectivement, la loi des archives, ça, c'est pas seulement pour les cahiers, dit que quand les gens laissent leur adresse, il faut surtout pas les contacter parce que c'est quelque chose de privé. Il se trouve qu'on a organisé un rassemblement à Villarceau, hein, dont je ne vais pas parler maintenant, mais qui a été formidable. Un membre du collectif L'Éveil Citoyen de Tarbes a organisé une assemblée, une restitution de l'analyse aux archives départementales. Et ils ont pris le risque d'aller voir les 75 rédacteurs de cahiers
contributeurs, oui.
Pour leur demander s'ils acceptaient de venir témoigner. ce qui n'était pas évident et ce qui était à la limite de la légalité, il faut le dire. Et tous les gens étaient ravis. Ils ont dit, mais bien sûr, si on a laissé notre adresse, enfin on nous contacte. Et donc, effectivement, je trouve que c'est très intéressant, ça, parce que ça montre que quand les gens les adressent lors d'une consultation citoyenne, c'est que non seulement ils ont envie d'être entendus par leur écrit, mais qu'ils ont envie d'être recontactés pour parler de ce qu'ils proposent. Et c'est ce qui s'est passé dans les Hautes-Pyrénées.
Alors, vous avez sélectionné des citoyens par tirage au sort. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment on est passé à l'assemblée de codécision?
Alors, en gros, on a tiré au sort selon une méthode que je ne peux pas vous expliquer, mais qui est objective, c'est-à-dire qui essaye de couvrir tous les quartiers de la ville avec effectivement un intérêt particulier pour les quartiers où les gens prennent peu la parole, sont souvent peu consultés, où il y a beaucoup d'abstention. Mais il n'y avait évidemment pas que ces quartiers-là. À partir de ce tirage au sort, on a proposé aux gens de venir 4 week-ends et une soirée. La première soirée, on leur a expliqué comment ça se passait. Et effectivement, le thème a été choisi. Donc le thème, c'était la santé, puisqu'effectivement, ça découlait effectivement d'un contrat que la mairie de l'Île-Saint-Denis menait avec l'ARS. Donc effectivement, la première soirée a été l'occasion de choisir le thème. Après, lors du premier week-end, le thème a été approfondi, choisi, défriché. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'est pas question de faire que dans des assemblées, il n'y ait que des gens qui soient tous d'accord, et au contraire. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler au consensus, c'est-à-dire que quand il y a des divergences, de les creuser et d'essayer de les approfondir et de faire en sorte que les gens dialoguent ensemble. Et j'insiste là-dessus, parce que quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ou y compris lors des municipales, et ça je vais me lâcher aussi, parce que quand on voit que même un camp comme la gauche se déchire chaque fois, on est catastrophé, ça ne se passe pas comme ça chez les gens. Et les modes d'animation d'une assemblée de codécision partent du principe qu'autour d'un objet concret qui était la question de la relation à la santé et de comment améliorer la santé à l'Île-Saint-Denis, on peut trouver un consensus. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord, mais tout le monde peut effectivement dialoguer et qu'on peut essayer de faire en sorte que les gens soient le plus d'accord possible, si je puis dire. C'est très important.
Vous le dites, madame Anne.
Alors, la question, c'est qu'il n'y a pas que des élus et des citoyens, il y a aussi des experts.
Lors du troisième week-end, il s'agit de faire en sorte que on ait fait un travail et on le mène avec les citoyens pour trouver des expériences positives qui permettent de résoudre les problèmes que les gens ont abordés. Pour résoudre le problème, ça ne s'invente pas. Donc, ce qu'on fait, c'est, moi, ce n'est pas un mot que j'aime bien, c'est benchmark, c'est-à-dire qu'on fait une espèce de recherche, Sophie, tu le dirais mieux que moi, parce que...
Comparatif.
Une recherche comparative, merci. Et donc, on étudie, effectivement, des expériences qui nous semblent être utiles pour construire des solutions. Et ce qu'on fait aussi, ça, moi, j'insistais pour, c'est qu'on fait venir des gens qui ont ces expériences. Il se trouve qu'à Saint-Denis, qui est la grande ville d'à côté, l'île Saint-Denis, il y a une très très chouette maison de santé, qui d'ailleurs a été menacée par le gouvernement. Heureusement, les crédits ont été rétablis à cause de la mobilisation des gens. Et donc, ils ont inventé quelque chose de génial à Saint-Denis. À la Cité des Framboisins, il y a au moins une 40aine de langues et de gens qui parlent les langues. Au moment du Covid, ils ont fait en sorte de pouvoir aller voir tous les gens avec des médiatrices de santé qui parlaient les langues pour pouvoir les outiller et faire en sorte qu'ils puissent réagir au Covid. Et c'est une des villes où ça s'est le mieux passé. Et donc, en ce moment, il y a un certain nombre comme ça de nouvelles fonctions qui sont créées, les médiateurs de santé, qui effectivement peuvent aller dans des quartiers où les gens sont très très éloignés des pratiques de santé, ne savent même pas où trouver des généralistes. Et encore, quand je dis les généralistes, les spécialistes, c'est pire. Et donc, elle est venue témoigner de son travail. Il y avait aussi la responsable d'un centre qui va s'ouvrir, dans lequel il y aura un pôle santé. Donc, il y a aussi des gens qui témoignent. Ce n'est pas seulement des textes. Et c'est ça qu'on appelle les experts. Alors, ce que je voulais préciser, c'est que les experts ne votent pas. Ceux qui votent, c'est les élus et les gens qui sont tirés au sort, mais pas les experts. Les experts, ils apportent de l'expertise. C'est la même chose que les agents municipaux. Les agents municipaux, évidemment, qu'ils ont des choses à dire sur l'organisation de la santé quand ils travaillent là-dessus. Mais ils ne votent pas. Le vote, d'ailleurs, n'est pas un but en soi. Ce qui est important, c'est arriver à se mettre d'accord pour un diagnostic et des solutions à proposer qui seront effectivement présentées telles quelles au conseil municipal.
Et dans le cas de la santé, vous avez réussi à avoir un consensus sans vote, c'est ça ?
Absolument. Et ce qui s'est passé, ce qui est très chouette, c'est que donc il va y avoir, en gros, les résultats de l'assemblée de codécision vont être intégrés au travail que fait l'ARS. Et la municipalité, pas seulement la municipalité, mais l'ARS.
L'Agence régionale de santé.
Pardon, oui, effectivement, vous avez raison de le dire. Mais ce qui va se passer aussi, c'est qu'il y aura un comité de suivi dans lequel une partie des gens qui ont participé à l'assemblée de codécision seront là, et d'autres, pour voir comment ça se met en place et suivre effectivement l'effectivité de la mise en œuvre de ces solutions.
Sophie,
oui.
Vous avez participé depuis longtemps déjà à l'organisation de conventions citoyennes. D'assemblées permettant justement cette prise de parole avec des citoyens et des experts. Et un travail d'ailleurs assez remarquable puisqu'il a été très largement suivi. Est-ce que, en termes de débouchés, vous avez pu arriver à un résultat comparable à ce que vient de décrire Sylvie, ou est-ce que ça n'était pas le même objectif ?
Alors, je vais faire deux remarques. D'abord, je pense que tu fais référence aux premières conférences citoyennes que j'ai animées sur Paris en 2008 et 2014.
Je confirme.
Qui étaient les premières. Et pour dire que ça prend du temps aussi, parce qu'en 2019, Paris a décidé de faire le grand débat dans les règles de la Commission nationale du débat public, ce que n'avait pas fait le gouvernement. Et de ce grand débat, moi j'avais été volontaire de débat donc en 2019, voilà. Et de ce débat a été décidé de créer l'Assemblée citoyenne parisienne tirée au sort. Et il y a eu déjà trois promotions. Donc moi j'ose penser que le fait d'avoir commencé à faire des conférences citoyennes en 2008-2014, 2016 ça a été aussi la conférence sur Bien vieillir à Paris aussi, qui avait été faite par des élus du 3e arrondissement. Donc moi je me dis que tout ça cumulé, finalement, ça permet aux élus de bouger, voilà, de bouger là-dessus et de créer ces assemblées tirées au sort. Et je confirme ce que dit aussi dans mes autres expériences, que quand on met des gens à délibérer ensemble, débattre, ça donne quelque chose de qualité. C'est-à-dire que les réponses sont meilleures puisque les gens sont concernés par les décisions que vont mettre en place les élus ou les pouvoirs publics. Moi, dernièrement, j'étais dans un conseil citoyen sur les risques sanitaires liés aux moustiques tigres à Montpellier. Donc, il y avait des chercheurs, les experts qui formaient les citoyens. Il y avait une dizaine de citoyens. Ça allait du bac plus 5... à quelqu'un qui avait été dans la rue, hein, et pour lui, le moustique tique, c'était des copains qui étaient morts dans la rue du dingue, et pour celle qui était bac plus 5, c'était est-ce qu'il y a vraiment un risque sanitaire avec le moustique tique ? C'est juste pour dire qu'on a toute la société qui s'exprime dans ces espaces-là, et bon an mal an, donc avec des tensions, des conflits, etc. Et bon an mal an, on arrive à un avis, là c'était un avis citoyen, qui tient complètement la route. Et que là, en l'occurrence à Montpellier, trois maires de la commune, si elles sont élues, vont décider de mettre en œuvre une des préconisations des citoyens, qui est une réserve citoyenne chargée de faire une information, sensibilisation, parce qu'il y a plein de gestes, hein, de précautions. Voilà. Donc c'est juste pour dire que, comme dit Rosan Vallon, la première institution de la démocratie, c'est la délibération, c'est le débat, et ça, il faut le faire vivre.
Dans un instant, nous allons voir, oui, Boudjema, ce que devient tout ce processus. Oui. Mais je voudrais qu'on écoute ce qu'on appelle la chanson des doléances. C'est un petit peu l'ensemble des revendications de ceux qui ont été consultés, qui ont bien voulu participer à cette opération. On l'écoute tout de suite.
J'ai écrit dans le cahier, pas pour être entendu, pour ne pas disparaître.
On est fatigué de se battre pour rien.
C'est simple, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne avec qui parler.
On travaille, mais on s'en sort pas.
Ça peut pas continuer comme ça.
J'ai roulé longtemps la nuit. La radio parlait à quelqu'un d'autre que moi.
On survit, on ne vit plus.
On ne se sent plus respecté.
C'est humiliant de devoir compter chaque centime.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Les élus ne vivent pas comme nous et ne comprennent plus nos réalités.
Ils décident entre eux, loin du terrain.
On se sent méprisé.
Monsieur le Président, première doléance, le respect.
Quand on se parle, on se comprend mieux.
Les grandes décisions ne se prennent jamais avec nous.
Oui, alors on nous demande notre avis, mais rien ne change jamais.
Liberté, résistance, vive la révolution.
La nature n'appartient pas à l'État ni aux entreprises.
Elle appartient à tous.
Ne plus laisser les territoires ruraux ni les banlieues à l'abandon.
On détruit trop facilement ce qui met des siècles à se construire.
Je n'écris pas par colère, mais par fatigue. Une fatigue profonde, morale, qui ne passe plus.
Je ne crois plus en rien, mais j'écris quand même.
Nous avons le devoir de protéger ce qui nous fait vivre.
Il faut soutenir les agriculteurs qui respectent la terre.
La démocratie, ça se construit tous les jours.
Il faut croire en notre capacité à changer.
Organiser des assemblées citoyennes locales avec un vrai pouvoir.
Remettre l'humain au centre.
Trouver une solution pour mettre en place les médecins dans les campagnes.
Renforçons la sécurité sociale, ce socle de notre société.
Répartir l'accueil des réfugiés sur l'ensemble du territoire et l'organiser dans le respect des droits de la personne et de sa dignité.
Une fiscalité juste doit financer des services publics présents partout.
Imposer de façon équitable tous les revenus, sans oublier le CAC 40.
La fiscalité, c'est la dernière revendication qu'on vient d'entendre, une parole forte, une parole émouvante. Vous souhaitiez nous parler un peu de cette initiative, de cette chanson des doléances
C'est la chanson des doléances, elle a été composée par Adrien de Blinière lors d'un week-end que le collectif pour la transition citoyenne et les cahiers pour décider et agir ont organisé à Villersault, et où ont été réunis des tas de gens qui venaient d'horizons différents, mais qui étaient unis par l'envie de faire que la démocratie devienne effective, et aussi par le sentiment d'urgence qu'on ressent tous en ce moment avec les guerres partout, la montée de l'extrême droite. Mais l'idée, c'était de résister et de créer. Le thème du rassemblement, le titre du rassemblement, c'était « Créer, c'est résister ». Et l'idée, c'est de dire qu'aussi, il faut qu'on soit capable de proposer un autre imaginaire aux gens qui, aujourd'hui, pensent qu'il n'y a plus rien à faire. Et donc, effectivement, il y avait aussi bien des élus que des collectifs de cahiers, que des artistes, que des producteurs de cinéma, que des influenceurs. Et donc, c'était très émouvant parce que tous ces gens se parlaient. Et effectivement, ce week-end répondait à l'envie de sortir de l'entre-soi et de faire qu'enfin des gens se parlent et que des gens de mondes différents se parlent, parce qu'on est tous unis par le même désir. C'est faire qu'effectivement on arrive à construire un avenir vivable.
Oui, c'est d'ailleurs, là c'est très, très, très fort ce que vous venez de dire, Sylvie, parce que on a bien vu dans les doléances, et alors peut-être moins dans les doléances, mais plus, il y a des initiatives citoyennes comme Paris Collectif, par exemple, qui s'est créée également. Et ce qui apparaissait aussi comme très important pour ceux qui étaient interrogés, citoyens et citoyennes, c'était une demande de lien, une demande de partage, une demande de solidarité. Et tout en restant effectivement avec cette dimension festive, c'est assez joli d'ailleurs ce morceau, et donc je tenais à le souligner.
Tous les aspects des revendications ont été abordés. Il y a un mot que j'ai retenu qui m'a accroché, c'est celui de respect. Une demande de respect. Et ça, c'est important, Sophie Maison-Dieu.
Oui, respect. Déjà, quand les gens parlent de leurs conditions d'existence dans les cahiers, ils le font déjà avec beaucoup de dignité. Et je pense que c'est la demande de respect, c'est justement qu'ils sont dignes. Voilà, ça c'est la première chose. Et après, il y a une demande d'écoute. Moi, j'ai envie de dire. Souvent, quand je vois la médiocrité des débats là, pendant la campagne municipale à Paris, par exemple, la médiocrité des débats, les invectives, etc., j'ai envie de dire, mais taisez-vous, là, s'il vous plaît, là, taisez-vous et écoutez ce que les gens ont à dire, parce qu'ils sont très rigoureux dans leurs paroles, c'est-à-dire qu'ils proposent, il y a plein de choses qui sont proposées.
Et là, vous êtes un peu en colère, n'est-ce pas?
Bah oui, que voilà. Oui.
Mais en même temps, il faut pas démobiliser.
C'est les cahiers de la colère et de l'espoir.
Bien sûr, mais en même temps, il faut pas démobiliser, et donc faut ajouter allez voter, surtout. Voilà. Hein, les risques sont trop grands pour effectivement se laisser emporter uniquement par la colère. Donc, je voudrais élargir un peu. On a parlé effectivement beaucoup de l'île Saint-Denis, mais il n'y a pas que cette initiative. Il y a également une expérience à Poitiers, par exemple. Je ne sais pas si vous l'avez un peu, j'imagine, un peu suivi. Laquelle de vous deux ou les deux souhaitez en parler?
Sylvie Alfandéry.
Oui, moi je peux en parler parce que Ombline d'Agicourt, qui est la première adjointe de Poitiers, était à Villarceau et qu'on travaille depuis longtemps avec elle. Tristan Réchit, qui fait partie de notre association, était l'un des co-organisateurs de l'Assemblée de Poitiers. Et effectivement, c'est l'une des formes les plus abouties. D'ailleurs, un film a été fait à ce propos, de mobilisation des citoyens et de réflexion, effectivement, autour de ce qu'on pourrait faire pour transformer le rapport à la politique. Donc, effectivement, l'Assemblée de Poitiers fera date. Et à la fois, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'on est au début de ces processus d'Assemblée de codécision. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette, on apprend en faisant. Et c'est ça que j'aime, y compris dans l'association qu'on a créée, c'est qu'on fait, qu'on réfléchit, qu'on transforme quand ça ne va pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas porteur d'un discours préfabriqué qu'on sort à toutes les choses. On travaille ensemble, on réfléchit, on travaille avec les gens. On pense qu'effectivement, les gens, en étant experts de leur vie, sont aussi porteurs de l'intérêt général. Et qu'effectivement, quand on réunit des gens autour d'un thème dans lequel ils ne sont pas porteurs d'une idée à défendre ou d'une idée précancieuse, et qu'effectivement ils se forment en apprenant des experts, en discutant avec les élus, en discutant avec les employés municipaux, et qu'effectivement ils se forment une idée, mais ils se forment une idée à partir de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils veulent transformer. Et c'est cette articulation entre le souhaitable et le possible que, si on le développait plus, je pense que le rapport à la politique changerait dans ce pays, et qu'enfin on arriverait à faire que la politique, ça soit quelque chose de positif et de partagé par tous. Et c'est urgent.
Il y a un mot que je n'ai pas entendu, en tout cas dans les revendications telles qu'elles s'expriment dans la chanson, c'est celui de sécurité, qu'on entend par ailleurs dans tous les médias mainstream. Alors,
que je peux dire de manière très factuel à Paris, puisqu'on avait aussi des gens qui s'étaient exprimés sur la ville de Paris. Le logement était le thème central, le cadre de vie aussi. Mais ce qui a été dit là-dessus, c'est plutôt le problème des incivilités, les mégots par terre, ou les vélos qui respectent pas les feux rouges, etc. Donc, de quoi on parle, voilà, quand on parle de sécurité, c'était plutôt ça, vraiment factuellement, qui était évoqué.
Sylvie Alfandéry, est-ce que c'est une préoccupation qui revient? Ou en tout cas, elle n'est pas la première.
Écoutez, je n'ai pas d'expérience de ce thème évoqué dans l'Assemblée de codécision de Seine-Saint-Denis, de l'île Saint-Denis. Mais c'est normal, c'était sur la question de la santé. Donc la première sécurité, c'est de pouvoir se soigner quand on parle de santé. Donc c'est plutôt de ça qu'on a parlé que de sécurité.
Alors et maintenant, on va se poser la question de savoir ce que vont devenir toutes ces initiatives. Les lendemains de cette expérience sous fait Maison Dieu.
Alors, sur les doléances, peut-être dire que c'est quand même une caisse de résonance, ça prend le pouls de la société française, quand même le dire et le redire, et que il y a des élus qui travaillent aussi dessus. Je pense à la Gironde, qui a essayé de construire ses politiques publiques à partir des cahiers des doléances, étudiée par les chercheurs en Gironde. Il y a le département de l'Aude qui a décidé de rendre public, accessible à toutes les communes, les quais des doléances. Donc voilà, pour moi c'est ça l'avenir, hein, c'est quand il y a un travail conjoint élu-citoyen. Sinon, rappelons qu'il y a un groupe de travail national qui a été créé pour travailler sur comment rendre public et anonymiser les quais des doléances. Dans ce groupe de travail est issu d'une loi transpartisane qui a été votée à l'Assemblée nationale, votée à l'unanimité, je le rappelle, et que cette loi a permis, cette résolution plus particulièrement, a permis la création d'un groupe qui est arrivé aux conclusions sur comment rendre public et anonyme les quais des doléances. Et la décision a été prise de le confier au campus Condorcet, qui est un ensemble de chercheurs de sciences humaines qui vont travailler sur l'accessibilité de ces doléances et qu'elles soient aussi objet de débat, c'est-à-dire que ça puisse évoluer, être actualisé, etc. Donc ça a été accepté par le gouvernement, décision de février 2026, donc on ne compte pas lâcher. Et dans ce groupe de travail, il y avait des élus locaux, des membres du CESE, des élus parlementaires. Donc voilà.
Mais la suite par rapport aux élus et aux partis politiques, en référence à la réunion publique dont je parlais tout à l'heure, quel est-il pour le comité, le collectif d'Oléance Paris?
On va le construire de manière collective. Je ne peux pas avoir une réponse individuelle là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une petite réticence à inviter des politiques et que comme on voit qu'ils s'approprient autant ces doléances qui sont autant touchées que nous, je trouve que ça change les représentations déjà de ce que c'est que le politique. Ce n'est pas celui qui a tout le temps de la ligne de bois. Mais je trouve que c'est déjà un petit pas. C'est important les représentations qu'on a du politique en tant que citoyen, c'est un petit pas. Après, on va voir les résultats parisiennes.
Sylvie Alfandéry.
Oui, moi ce que je voudrais dire, tu as absolument raison de souligner le rôle des chercheurs qui ont été impliqués dès le début. Dans le mouvement des cahiers et aussi le rôle des chercheurs citoyens parce qu'il y a eu énormément de recherches citoyennes co-agit, si je puis dire, entre par exemple des gilets jaunes et des chercheurs, c'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Aquitaine, mais pas seulement, ça s'est fait un petit peu partout.
En Picardie.
Et effectivement, parmi les chercheurs, il commence à y avoir vraiment un travail qui est en train de se faire pour se rapprocher des citoyens et travailler avec eux. Mais moi, j'aurais une position peut-être un petit peu plus girondine que jacobine sur la question de comment ça va continuer. C'est-à-dire que...
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
En gros, je voudrais souligner le rôle de mes ex-collègues qui sont les archivistes qui travaillent aux archives départementales. Ils n'ont pas attendu l'autorisation de Macron pour ouvrir leurs archives à tous les collectifs et aux gens qui voulaient travailler dessus. Un groupe de l'Aude a permis que les archives soient publiées depuis au moins 2-3 ans, si oui, je me rappelle oui. bien, sur le site du département de l'Aude. Si vous vous intéressez aux archives, vous allez sur le site du département de l'Aude et vous lisez toutes les archives canton par canton. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin de se poser des questions métaphysiques sur comment on numérise machin et machin. Ils ont tout recopié et c'est sur le... Et donc, moi, je rêve en couleur peut-être, mais... Je pense que si les archives, si les citoyens fréquentaient plus les archives départementales et si on pouvait écrire une histoire du peuple à partir des cahiers de doléances et à partir de la tradition d'histoire des cahiers de doléances, ça existe depuis le XIIe siècle quand même, ce serait vraiment formidable. Parce qu'effectivement, la question du rapport à l'histoire, en gros, moi je pense profondément que si on veut construire l'avenir, il faut aussi comprendre le passé et travailler avec. Donc bienvenue à tout le monde aux archives départementales et merci aux collègues archivistes.
Oui, on ira tous. Là, vous nous avez présenté l'une et l'autre deux initiatives qui sont fortes, qui sont riches. Est-ce qu'on peut envisager de transposer cette démarche au niveau national ou alors il ne faut pas rêver, il ne faut pas rêver en couleur? Sophie Maisandieu.
Difficile, parce que je pense que là ce qu'explique Sylvie par rapport aux archives, c'est vrai par rapport aux citoyens qui sont allés les chercher. On est dans l'initiative citoyenne, on n'est pas dans un dispositif national. Donc ça va dépendre de l'envie de chacun de ne pas se laisser faire. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas ce que tu peux ajouter.
Mais l'objectif,
là-dessus,
c'est de peser sur le national, non?
Oui, mais moi je suis très optimiste sur le devenir du mouvement des cahiers. C'est évident qu'il faut que le mouvement des cahiers de doléances, enfin je ne sais pas, il y a 40 ou 50 collectifs hein, à peu près, Sophie.
Une quarantaine de
collectifs.
Il faut
qu'ils se fassent plus connaître. Oui. Il faut qu'ils se fassent entendre. Oui. Pour moi, ce n'est qu'un début. Et Et quand je dis que c'est un début, ça a commencé en 2018, on est en 2026. Mais effectivement, il y a un travail tellement énorme à faire à partir des cahiers. Si on arrivait à mettre en œuvre tout ce qu'il y a dans les cahiers, je peux vous dire que ça va prendre un certain temps. Parce que nous, on a organisé une assemblée au niveau local, mais la plupart des revendications des cahiers, ce sont des revendications qui devraient se résoudre au niveau de l'Assemblée nationale. Donc effectivement, quelle forme de représentativité citoyenne on construit pour qu'effectivement les citoyens aient leur mot à dire sur ce qui se vote à l'Assemblée nationale et pas seulement en allant voter aux législatives. Donc effectivement, il y a du boulot et du travail sur la planche.
Il y a du travail de maillage, c'est-à-dire que si on prend l'attaque Zucman ou la pétition sur la loi Duplomb, en fait, ce sont deux thèmes qui sont dans les quais des doléances.
La loi Duplomb, il faut rappeler de quoi il s'agit.
La loi Duplomb contre le député Duplomb qui a voulu réintroduire, en gros, je résume, mais les insecticides dans l'agriculture et sur lequel se sont soulevés donc 2 millions de pétitionnaires, essentiellement aussi sur des questions de santé environnementale. Les Français ont bien compris que l'environnement participe à la bonne santé. Donc, je pense que c'est ce maillage qui est important, c'est-à-dire qu'il y a des résonnants dans ce qui a été dit des doléances avec ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il faut être ensemble. Et effectivement, Sylvie parlait du week-end qu'on a passé à Villarceau. Il y avait ceux qui ont fait la pétition Duplomb qui s'appelle « On est prêts », c'est encore un collectif de citoyens. Bon, c'est aller les voir et leur dire « Vous savez que vous poussez une thématique qui était déjà dans les cahiers et qui est toujours actuelle ». Voilà, donc c'est plutôt, je crois, plutôt à l'écosystème des initiatives.
Est-ce que les pouvoirs politiques installés, ou les partis politiques installés, est-ce qu'il ne faut pas aussi,
les challenger.
Les challenger, voilà. Et est-ce que vous les avez challengés jusqu'ici?
Parce que les principes sont relativement simples dans ce que vous développez, Sophie et Sylvie. C'est véritablement co-décider ensemble, c'est s'appuyer sur l'intelligence collective, et c'est procéder effectivement sans vote au niveau des décisions. Et donc, il faut qu'à la fin, il y ait zéro objection. Donc, il y a un sacré travail à faire du côté des partis politiques et des élus.
Je peux simplement dire que dans mon arrondissement, il est prévu des états généraux de la démocratie. Donc, j'espère bien qu'on pourra prendre la parole et puis on la prendra. Il y a une assemblée citoyenne qui s'est tenue dans la précédente mandature. Et il faut la suivre. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un existant sur lequel il faut interpeller. Voilà, tout simplement.
Sylvie Alfandéry.
Oui, nous, si on a fait ce film « Les règles du jeu », c'est pour inviter les maires et les citoyens et les assemblées citoyennes à co-organiser des assemblées de décision. C'est pour ça qu'on l'a fait et on espère bien qu'effectivement cette idée va essaimer. On a contacté pas mal de maires avant les élections municipales et beaucoup nous ont dit on va passer les élections municipales mais on est intéressé par le faire. Il y a des questions très importantes comme par exemple la décision sur les budgets. Comment on emploie les budgets municipaux? Quelle est la parole des citoyens là-dedans? Et on connaît des maires que ça intéresse de réunir des citoyens pour parler de la question du budget. Pourtant, c'est une question à la fois pas facile à traiter techniquement et politiquement, qui est assez chaude, on va dire. Oui. Effectivement, notre ferme intention, c'est d'arriver à développer des assemblées de codécision un peu partout. Et effectivement, on est en réseau avec un certain nombre de maires. On espère bien pouvoir les organiser et donc former des gens à l'animation. Parce que c'est pas si simple que ça d'animer des débats. C'est un vrai savoir-faire d'arriver à faire dialoguer les gens ensemble et qu'effectivement, ils s'écoutent mutuellement.
Boudjiman Aman, pour l'avant-dernière question.
C'était simplement rebondir sur ce que vient d'évoquer Sylvie, à savoir les budgets. On est donc dans le cadre d'une émission qui est diffusée sur Radio Aligre, sur Aligre FM plus exactement, qui régulièrement, donc, comme toute radio associative, a besoin de subventions. Et il y a eu beaucoup de questions et de demandes pour que, effectivement, que ce soit dans le cadre des budgets participatifs, que ce soit dans le cadre des attributions de subventions, les citoyens soient associés aux décisions qui sont prises, parce que malheureusement, très souvent, je ne dirais pas qu'elles sont opaques, mais en tout cas, elles se situent en dehors d'eux-mêmes. Ils déposent un dossier et ils attendent effectivement le résultat. Donc il y a vraiment cette volonté aussi de pouvoir participer à ce type de décision.
2027 se profile à l'horizon, les présidentielles. Ça va être quoi votre travail d'ici mai 2027, Sophie Maisondieu?
On a déjà prévu, on a déjà décidé de continuer à diffuser la parole. On va faire une réunion justement en invitant les 130 contributeurs des cahiers du 11e arrondissement et les associations qui ont fait des débats. On va les inviter parce que pour interpeller les élus, il faut qu'on soit une force interpellatrice. Donc il faut mobiliser. Donc c'est vraiment important. Et puis, moi, je pense que mettre la parole, à l'honneur, c'est-à-dire, on va avoir plein de discours pendant les présidentielles, on va avoir des discours identitaires, des discours durs, et il va falloir dire, mais attendez, de quoi parlez-vous? Est-ce que vous parlez des conditions des Français? Est-ce que vous parlez de leurs propositions? Remettre à l'honneur la parole citoyenne et pas le discours avec les contre-vérités que ça véhicule. Voilà.
Sylvie Alfandéry, du côté du collectif Toléance.
Merci Claude, heureusement que je suis là.
Les cahiers pour décider et agir. Comment ça va se passer 2027?
Je crois que si on arrivait à faire que les gens se mettent à faire de la politique au bon sens du terme, et effectivement comprennent qu'ils sont une part importante des gens qui peuvent basculer et faire que cette société arrête de se déchirer, soit dans la haine, avec des médias qui racontent n'importe quoi, et qui fassent que des choses aussi dangereuses que l'intelligence artificielle, on ne fasse plus que parler de ça. Donc, faire entendre les gens et se dire qu'effectivement, dans les cahiers de doléances, les gens ont exprimé tout ce qui permettrait de faire qu'on vive d'une autre façon. Et donc, c'est ce qu'on va s'employer à faire, c'est effectivement mettre en œuvre ce qu'il y a dans les cahiers de doléances et faire en sorte que les gens s'inscrivent dans un futur heureux. C'est un peu naïf de ce que je vais dire, mais je préfère pas aller plus loin parce qu'effectivement, ça demanderait une grande discussion sur le rapport au parti. C'est pas l'objet de cette discussion.
Sophie Maisondieu, 30 secondes.
Il y a un thème, les gens ne parlent pas de leur travail, de la démocratie sur le lieu de travail, et moi je pense que ça va être un thème majeur pendant les présidentielles, et donc il va falloir aller chercher les cahiers des doléances qui sont la bourse du travail à Paris, et puis aller voir les syndicats, travailler avec eux.
Fréquence droit, c'est la fin de cette émission. Je remercie Sylvie Alfandéry du collectif Cahiers pour décider et agir, fois je ne me suis pas trompé. Et puis Sophie et Maisondieu, collectif Doléances à Paris. Merci Boudjman Aman qui m'a accompagné et qui a participé à la préparation de cette émission. Également en support, Laurence Sabiri-Séban, Marc Savino, Bruno Guironet et notre technicien Armand que je remercie. Passez une bonne après-midi, une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt, peut-être au mois prochain mais peut-être avant.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.